Bonsoir. Agir pour susciter le changement, c'est le thème de la journée internationale Nelson Mandela célébrée le samedi 18 juillet dernier. Dans son message livré à l'occasion de cette commémoration, le secrétaire général de l'ONU a déclaré que l'exemple de Nelson Mandela nous rappelle que tant que la pauvreté, l'injustice et les inégalités flagrantes persisteront dans notre monde, nul d'entre nous ne connaîtra de véritable repos. C'est donc l'occasion de souligner combien il importe de travailler ensemble, gouvernants et citoyens, pour construire un monde pacifique, durable et équitable, a martelé Antonio Guterres. Dans le contexte de la pandémie COVID-19, comment les idéaux de Nelson Mandela peuvent-ils contribuer à la construction d'un continent africain pacifique et sans inégalité? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce mardi 21 juillet 2020. Participe au débat Angèle Makombo, présidente du parti politique Ligue des démocrates congolais, LIDEC en sigle. Madame Makombo, bonsoir.
Bonsoir.
Maître Jean Bouillot, professeur de droit commercial au OADA à l'Université de Kinshasa. Il est député national élu des Kiabalo dans le Tanganyika et cadre du PPRD. Maître Jean Bouillot, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Et Abbé Georges Ndoumba, il est professeur des universités, attaché principalement, je voulais dire, à l'Université catholique du Congo. Il enseigne la philosophie du langage, herméneutique et philosophie politique. Abbé Georges Ndoumba, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Vous êtes très nombreux auditeurs de Radio Kapi à réagir au thème de ce soir. C'est le cas de Maître David Massandi depuis Bushabunda au sud de Kivu. La pauvreté, l'injustice et les inégalités en Afrique sont les résultats de la mauvaise gouvernance et de la soumission exagérée de nos dirigeants aux occidentaux. Et Maître Edmond Mbokolo à Mbandaka dans la province de l'Équateur, les idéaux de Nelson Mandela doivent être gravés dans les esprits de tout le monde, gouvernants et gouvernés. Ces idéaux nécessitent l'abandon des valeurs, entre autres la corruption, la concussion, l'immoralité professionnelle, le népotisme. Ces états de choses doivent être gravés dans nos esprits. C'est une responsabilité de tout un chacun. Merci de nous suivre à Lubumbashi dans la province de Haut-Katanga sous la 95.8. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiokapi.net.
Le secrétaire général de l'ONU appelle les gouvernements du monde à la solidarité pour combattre les inégalités créées par la pandémie COVID-19. Il a fait cet appel à l'occasion de la célébration le 18 juillet de la journée dédiée à Nelson Mandela dont le thème cette année est « Agir pour susciter le changement ». D'autres détails de ces messages avec vous, Jean-Pierre Elali.
La célébration de la journée Nelson Mandela requiert deux symboliques. Le 18 juillet de chaque année marque l'anniversaire de la naissance de Nelson Mandela. Les Nations Unies reconnaissent à travers cet anniversaire le grand travail que cette icône mondiale a réalisé pour la paix et la liberté dans son pays, à l'Afrique du Sud, et partant dans le monde. La deuxième symbolique est liée aux 67 ans consacrés par ces militants anti-apartheid à ce combat de la liberté et de la paix. La symbolique est que les Nations Unies exhortent le monde à consacrer 67 minutes de son temps à aider les autres et les biens publics en souvenir des 67 années de militantisme du vieux leader sud-africain aujourd'hui décédé. En RDC, il n'y a pas eu de manifestation grandiose pour célébrer cette journée dédiée à Nelson Mandela, mais chacun de nous est convié à cet exercice noble. Être au service de plus de minuit de notre société ne serait qu'une heure et sept minutes. L'ONG qui porte son prestigieux nom, les amis de Nelson Mandela, commémore à sa manière cette journée qui intervient à un moment crucial marqué par la pandémie de coronavirus. Notons que Nelson Mandela s'est éteint le 5 décembre 2013 à 95 ans.
Merci Jean-Pierre Elali. Angèle Makombo, je rappelle que vous êtes présidente du parti politique Ligue des démocrates congolais, LIDEC en sigle. Nelson Mandela, personnalité connue dans le monde entier, Nelson Mandela en politique sud-africain, qui s'est battu toute la vie de manière pacifique contre l'apartheid, les inégalités et pour la liberté. Qu'est-ce que ce personnage représente pour vous?
C'est une grande icône. Comme vous dites, il s'est battu et a été en prison pendant 27 ans. Mais ce que je retiens de lui, principalement, c'est qu'au sortir de cette prison, il aurait pu avoir un esprit revanchard, mais non, au contraire, il a non seulement pardonné, mais il a eu une vision pour son pays. Il aurait pu aussi, parce qu'il y avait à cette époque des gens qui l'appelaient à l'expulsion des Blancs, à l'esprit de revanche. Au contraire, il a eu cette vision de penser que il fallait que tous les Sud-Africains soient ensemble pour construire l'Afrique du Sud. Et il aurait cédé aux sirènes de la vengeance. Eh bien, je pense que l'Afrique du Sud n'allait pas être la deuxième économie d'Afrique aujourd'hui. J'ai eu aussi le plaisir et l'honneur de le rencontrer quand j'étais fonctionnaire à l'ONU. C'est vraiment une figure qui nous marque et qui nous marquera toute notre vie.
Et à l'occasion de la célébration internationale Mandela, samedi 18 juillet dernier, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé les chefs d'État et des gouvernements à saisir l'importance fondamentale d'être unis et solidaires. Comment vous analysez cet appel du secrétaire général de l'ONU?
J'ai trouvé que le secrétaire général Antonio Guterres était dans son rôle, du secrétaire général des Nations Unies qui doit une organisation internationale dont le rôle premier est de préserver la paix et la sécurité, de penser à la promotion des droits de l'homme et au développement, dont il était dans son rôle d'appeler les chefs d'État à la solidarité pour justement supprimer les inégalités, l'injustice. Mais j'avoue que je ne peux pas m'empêcher de me dire que c'est encore un nouveau beau discours qui ne sera pas tellement suivi des faits, surtout dans ce contexte de la pandémie du coronavirus. Nous sommes face à des réalités dans nos pays africains, en particulier notre pays, la RDC, où on peut souhaiter qu'il y ait solidarité, mais dans la réalité, on se rend compte que non, sur le terrain, le peuple souffre encore plus et le gâteau, à savoir le budget, est tellement petit que les conditions sociales de la population ne se sont pas tellement améliorées. Et une symbolique très forte, c'est de voir que même ceux qui sont au front, justement pour nous soigner, nous prendre soin de nous lors de cette pandémie, même ceux-là ont eu il y a quelques semaines à manifester dans la ville pour réclamer 3 mois d'arriéré de salaire. Donc non, je trouve que bon, le secrétaire général ne pouvait pas dire autre chose, mais en fait c'est un vœu pieux. C'est un vœu pieux.
L'appel à l'unité et à la solidarité, vous dénoncez le fait que sur terrain, on ne sent pas cette unité et cette solidarité. Pourquoi, selon vous, est-ce que par manque de volonté politique?
Non, je pense que au départ, la volonté y est, de dire il faut venir en aide à nos populations. Mais regardez les mesures dans beaucoup de pays. Cette pandémie, le confinement a été accompagné par des mesures pour aider les gens à peut-être manger, à avoir de quoi manger, pour aider les écoliers qui vont pas à l'école à suivre leurs cours par internet depuis la maison, etc. Aider les gens à se soigner, mais dans la réalité, étant donné que nous avons pas assez de moyens, dans la réalité, les gens meurent de faim, et ça je n'exagère pas. Les prix des denrées alimentaires ont doublé dans le pays. Le panier de la ménagère est devenu très 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 petit. Quand vous regardez ce qu'on appelle la mesure de foufou écolo, avant confinement 600 francs congolais, maintenant 1200, même les petits bouquets de matembele de 300 francs avant confinement et passé à 1000 francs, ce sont des réalités. Le transport a doublé. Et puis, si on pense à l'éducation, oui, il y a eu quelques initiatives pour permettre aux enfants d'étudier depuis la maison. Mais combien d'enfants congolais ont un laptop, un ordinateur, ont l'internet, et surtout que nos compagnies de téléphonie mobile n'ont pas baissé hein, n'ont pas contribué à cette solidarité justement dont on parle en baissant peut-être le prix des mégas. Non. Alors je me dis non, c'est malheureux. Et je reviens à l'exemple de même ceux qui sont les soldats de défense contre cette pandémie, nos médecins, nos infirmiers, nos paramédicaux, eh bien, ils accusent 3 mois d'arriéré de salaire. Et sans oublier le chômage qui s'est intensifié. Et on avait déjà un niveau de chômage élevé, mais aujourd'hui, regardez, dans différents secteurs d'activité, on licencie à tour de bras. Parce qu'il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Donc, c'est vraiment un réel problème.
Maître Jean Bouillou, je rappelle que vous êtes professeur de droit commercial au HADA, l'université de Kinshasa. Vous êtes également député national élu des Kabalos dans le Tanganyika et cadre du PPRD. Quel héritage vous gardez du combat de Nelson Mandela?
Merci beaucoup, madame. D'abord, je tiens à saluer madame Angèle Macombo et à reconnaître la pertinence de ce qu'elle a déjà avancé. Le combat de Nelson Mandela a été universellement reconnu. Et si j'ai retenu de ce combat quelque chose, c'est d'abord sa fermeté, le refus de se courber aux demandes de ceux qui opprimaient son peuple. Il a été ferme, il a accepté la prison, il n'a pas négocié, il n'a pas transigé sur les valeurs essentielles, notamment la liberté de son peuple. Et dans ce sens, il reste pour nous tous un modèle, une icône. J'ai pas eu l'occasion de le rencontrer, mais je lui ai écrit une lettre et j'étais content qu'il m'avait répondu, signée de sa main. C'est donc un combattant de non seulement de la liberté, mais vraiment de un modèle de caractère qui nous a pendant des années inspiré qu'il est possible de résister contre l'oppression. Il est possible de résister contre la colonisation. Voilà l'image magnifique que j'ai de lui. Alors quand il est passé au pouvoir après la libération, j'ai eu plutôt de lui l'idée de père de famille, quelqu'un qui accepte que les choses fonctionnent normalement au sein du pays en essayant absolument de garder un équilibre entre les droits de ceux qui possèdent, donc de l'intelligentsia occidentale et de la bourgeoisie occidentale qui était ancrée en Afrique du Sud, et le droit de ceux qui ne possèdent pas, c'est-à-dire son propre peuple. Et ça n'a pas été facile de jouer entre ces deux, ces inégalités, et gérer à la fois ceux qui possèdent et qui ne veulent pas partager, et ceux qui n'ont rien et qui attendent tout de toi, le chef de l'État. Je crois que ça a été un combat épuisant pour lui, et je crois que c'est pour ça qu'il s'est retiré assez tôt pour préserver ne fût-ce qu'un peu de santé avant de nous quitter de cette terre.
Alors voilà. Nelson Mandela a combattu contre les inégalités, et à l'occasion de la journée internationale de Nelson Mandela, le secrétaire général de l'ONU estime que dans le contexte actuel de la pandémie COVID-19, cette pandémie met à jour des profondes inégalités, et il faudrait lutter contre cette pandémie de l'inégalité en adoptant un nouveau contrat social pour une ère nouvelle.
Oui, le plus intéressant dans ces propos du secrétaire général, c'est cet appel à la solidarité et à l'unité. C'est que le secrétaire général des Nations Unies est conscient de ces inégalités au niveau mondial, de cette injustice au niveau mondial. Il y a quelques années, une vingtaine d'années, une trentaine même, il y a eu une initiative internationale sur ce qu'on a appelé le dialogue Nord-Sud. En fait, c'est parce qu'on s'est rendu compte que les pays du Sud ne seraient pas sortis de leur pauvreté, de leur inégalité, de cette inégalité, sans être soutenus par les pays du Nord. C'est universellement connu. Les pays anciennement colonisés qui ont été plongés dans une civilisation qui n'était pas la leur, eh bien, il ne faut pas leur demander, un siècle après, de s'en sortir eux-mêmes. Et malheureusement, au niveau international, cette solidarité n'a pas agi. Et jusqu'à ce jour, ceux du Nord ont presque abandonner ceux du Sud. J'ai même lu il y a quelques mois une initiative de créer des technologies pour le Sud et des technologies pour le Nord. Ça veut dire que les ceux du Nord, ce qui les intéresse, c'est leur la préservation de leur position, de leur richesse, de leur comment dirais-je, avancée, et ils veulent pas en savoir plus sur les peuples du Sud ou le peuple qui doivent se débrouiller, se débattre eux-mêmes. Et donc je voudrais simplement dire à ce sujet qu'il ne faut pas toujours attribuer ces inégalités, cette pauvreté à la corruption, à la concussion, à l'immoralité des dirigeants. Certes, il y a un contenu réel dans ce qui est dénoncé, mais il faut surtout voir la responsabilité historique dans laquelle le peuple africain a été plongé depuis un siècle et demi à peu près. N'oublions pas non plus qu'avant la colonisation, il y a eu l'esclavage, où on a déporté plus de 300 millions de personnes en Amérique. Toutes ces réalités-là ont quelque chose à voir avec la condition de l'Africain aujourd'hui.
Et plus d'un siècle après, l'Africain n'arrive toujours pas à s'en sortir, Maître Jean Bouyou.
Oui, effectivement, le temps est trop court pour espérer que l'Africain s'en sorte. Imaginez les économies africaines, imaginez l'économie internationale et son système. L'Afrique ne peut pas tenir tête, non pas parce qu'elle ne veut pas, mais parce qu'elle est dans une condition justement d'injustice dont elle ne peut pas se défaire parce qu'elle veut. Non, il faut des moyens, et des moyens d'ordre divers. C'est pour ça qu'au niveau international, lorsque le secrétaire général des Nations Unies parle de solidarité, il sait de quoi il parle. Ce n'est pas par hasard qu'il a utilisé ce mot. Lorsqu'il dit il faut aider les autres, il sait de quoi il parle. Et évidemment, au sein des peuples africains, il faut de l'unité. Ça ne sert à rien de surajouter à la pauvreté encore des inimitiés, des guerres, des guéguerres. C'est ça qu'il faut éviter.
Abbé Georges Ndoumba, professeur des universités, attaché principalement à l'Université catholique du Congo, vous enseignez la philosophie du langage, herméneutique et philosophie politique dans le contexte de la pandémie Covid-19. Comment les idéaux de Nelson Mandela peuvent-ils contribuer à la construction d'un continent africain pacifique et sans inégalité?
Bon, merci madame de l'occasion que vous me donnez de participer à cette émission. Je salue d'abord Maître Mbouyou, que je connais bien, et Madame Makombo aussi. Comment la pensée de Nelson Mandela peut participer dans la résolution des problèmes dans le contexte actuel? Je voudrais d'abord insister sur deux dimensions de Mandela qui m'ont toujours frappé. La première, c'est que Mandela, c'est à la fois un homme de pensée et d'action. Et le secrétaire général a commencé par dire « agir pour susciter les changements sur le modèle de Nelson Mandela ». Et un acteur politique, un acteur de développement, mais aussi un penseur qui a pris appui sur la tradition, les habitudes et la philosophie africaine. Je voudrais insister là-dessus, parce que il y a des inégalités qui relèvent d'ordre structurel, il y a des inégalités aussi que nous pourrions arranger si nous prenions soin de voir un peu dans nos modèles de vie, de pensée, d'organisation civile, puisé dans nos propres traditions. Vous savez que l'action de Mandela a pris à point, il a pris sur ce qu'on peut appeler la philosophie des Lubuntu. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas être développés tout seuls. C'est dans les vivre ensemble, c'est dans la cohésion, c'est dans l'échange, le débat, la discussion que nous aurons des ressources suffisantes pour faire face à tout ce qui peut nous arriver, des biens ou des moins biens. Donc Mandela a puisé, après sa prison, quand il a été aux affaires, et pour diriger son pays comme il se devait, il est d'abord puisé dans cette sagesse traditionnelle africaine. Et aujourd'hui, dans le contexte qui est le nôtre, je voudrais que nous puissions aussi réserver une place suffisante à des ressources propres, internes à nous d'abord. Nous avons des plantes médicinales, on a dit. Nous avons des chercheurs, nous avons des universitaires, nous avons des hommes de pensée, de politiques et des politiciens. Si nous regardons d'abord comment, à l'interne d'abord, nous pourrions faire face à cette pandémie, je crois que nous aurons quand même des ressources suffisantes pour faire face à cette épidémie. Et Mandela a commencé d'abord par puiser dans son milieu, dans le local, avant de penser à des principes universels.
Malheureusement, Abbé Georges Ndoumba, on a l'impression que les Africains ne se font pas confiance. On préfère attendre ce qui vient de l'Occident.
Mais justement, le combat de Mandela, c'était aussi un combat de désaliénation culturelle, désaliénation politique, parce que tant que les Africains ne seront pas d'abord solidaires entre eux, compter sur la solidarité des autres extérieurs, ce serait une simple utopie, à mon avis. J'ai bien suivi mon collègue, le professeur Mbuyola. Bien sûr, il y a des inégalités structurelles. Il y a des inégalités dues à l'histoire. Mais quelles que soient les contingences actuelles dans lesquelles nous nous trouvons, je crois que nous avons intérêt à nous souder d'abord sur le plan national, et il a dit ça aussi, sur le plan régional, sur le plan continental, avant d'espérer que les autres qui sont loin pourront nous venir en aide. Eux, ils ont leurs problèmes aussi. Nous avons les nôtres, mais commençons d'abord par nous faire confiance. Commençons d'abord par consolider la cohésion à l'interne, avant d'espérer recevoir et utiliser à bon escient les aides qui pourraient nous venir d'ailleurs. Et ça, je crois que nous pouvons voir la leçon de Nelson Mandela, parce que il a d'abord commencé par réglementer, harmoniser la situation de son pays, qui n'était pas une situation facile. Mais s'il devait compter d'abord sur les apports extérieurs, je crois qu'il aurait été très difficile à régler, tant que faire se peut, la situation compliquée qu'il a trouvée dans son pays après son emprisonnement et quand il était aux affaires. Mon homme l'a vu.
Merci Abbé Georges, on vous garde encore dans cette émission. Les auditeurs sont très nombreux à appeler et envoyer les réactions. Madame Angèle Makombo, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kisangani.
Maître Junior Jackson Boufete, depuis la ville de Kisangani, dans la province de la Diopo. Justice, paix, travail, cette devise de notre nation, l'épine dorsale même de l'état de droit, devrait naturellement, à mon avis, contribuer à la construction d'une nation congolaise, pacifique et sans inégalité, d'abord, puis au continent africain, étant entendu que la RDC, ce géant pays au cœur de l'Afrique, et non seulement au centre, soit au carrefour de tous les enjeux continentaux et mondiaux, mais aussi et surtout stratégiquement l'épicentre et les enjeux environnementaux de l'humanité tout entière au regard de ses ressources forestières, sans oublier les richesses minières tant en vue des dictats occidentaux. Ainsi, seul l'avènement d'un état de droit véritablement démocratique où règne le respect des règles établies par tous, c'est-à-dire gouvernant, c'est gouverner, le sens du bien commun, l'égalité, l'amour et la solidarité nationale sont autant de préceptes, à mon avis, incontournables pour l'issue des idiots de l'icône continentale et africaine, Nelson Mandela.
Madame Angèle Makombo, qu'est-ce que vous pensez de cette réaction de Jackson Boufete qui nous a appelé depuis Kisangani?
Monsieur Jackson, il a dit des choses très très sensées, effectivement, l'état de droit, c'est l'une des voies à suivre qui nous mènera justement à réaliser cette justice et cette paix et ce travail. Mais juste rapidement, je voudrais dire que je pense que 60 ans après notre indépendance, il est grand temps, je pense d'ailleurs à ce que a eu à dire le chef de l'État. On n'a plus d'excuses. Donc, toujours évoquer l'esclavage, la colonisation, oui, ça a eu lieu. Mais 60 ans après, avec tout, toutes les potentialités que nous avons, toutes ces richesses que nous avons, que vient d'évoquer M. Jackson, est-ce qu'on a vraiment encore des excuses pour être dans la situation où nous sommes, où 75 à 80% des Congolais vivent avec moins de 2 dollars par jour? Nous célébrons Mandela aujourd'hui, mais quel est l'homme qui peut le plus symboliser l'intégrité qui nous manque tant en RDC que Nelson Mandela? Nelson Mandela est mort, on nous a cité sa fortune, je pense que c'était moins de 5 millions de dollars. Hein? Et moi, je pense qu'effectivement, c'est cette corruption qui nous gangrène, qui ne nous permet pas justement d'avoir assez de ressources pour assurer une bonne redistribution et diminuer l'injustice sociale qui est criante dans notre pays. Et cette corruption, ce sont les Congolais qui s'y adonnent. Ces malversations, cette malgouvernance, c'est avec la complicité des Congolais. Donc toujours référer à ce passé de esclavage, non, 60 ans après, non, on n'a plus d'excuses. Il faut vraiment, je dis toujours, 60 ans après, nous avons toutes les compétences, nous avons le génie congolais existe, et etc. Mais ce qui nous manque fondamentalement, c'est ces valeurs morales, hein, d'intégrité, et qui nous permettront justement de exploiter nos ressources pour créer de la richesse et pour diminuer la pauvreté dans ce pays.
Vous pensez donc, Madame Jeanne Makombo, que les Africains peuvent s'en sortir sans compter sur les Occidentaux?
Bien sûr, on est dans un monde, comme on dit, globalisé. Et j'ai aimé ce que l'abbé Georges a dit. Commençons d'abord cette solidarité au niveau du Congo. J'ai été frappée, j'ai vu par hasard hier les chiffres de l'effort de solidarité en RDC contre le Covid. J'étais ahurie. Hein, je crois que la somme n'a pas dépassé 4 millions de dollars. C'est absolument choquant. Ça prouve que ces beaux discours de solidarité, d'unité, pour construire un monde meilleur, oui, le temps d'un moment, ça nous galvanise, le temps d'un discours du secrétaire général, mais dès le lendemain, nous retournons à nos vieilles habitudes d'égoïsme, hein, et de manque justement d'intégrité, de valeurs totalement renversées, etc. Non, il est temps de changer les choses. Et il est vraiment temps de se dire, cet état de droit, c'est quoi? C'est d'abord l'égalité de tous devant le droit, devant la loi. Donc il faut absolument mettre ça en place, et puis pour pouvoir arrêter cette impunité, cette corruption qui fait que le budget de l'État est si maigre et qu'on a si peu pour faire une bonne redistribution.
On va prendre pour vous, Maître Jean Bouillou, aussi cette réaction qui nous vient de Kalemie.
Ali Mouchaba Joseph Cicéron, depuis Kalemie, chef-lieu de la province du Tanganyika. À mon avis, dans le contexte actuel de la pandémie à coronavirus, la prise de conscience est due à l'utilité sociale. Jamais on ne saura bâtir un continent meilleur aussi longtemps que la pauvreté, les inégalités et tout autre fléau persistent encore. Avec les dynamismes dévoués de nos leaders, les Africains peuvent aisément atteindre les fins escomptées tout en préconisant l'indépendance absolue du continent. Ainsi, j'invite les pays riches à songer aux pays pauvres, victimes de la pandémie mortifère des coronavirus, afin qu'ils soient épargnés d'affres et conséquences fâcheuses dont ils sont victimes. Et ceci devra se faire sa contrepartie. Voici les initiatives et projets que les idéaux de Nelson Mandela doivent entreprendre sans relâche pour transporter notre continent africain dans la trajectoire du progrès et du développement inscrit en lettres indélébiles.
Maître Jean Bouillou.
Oui, merci madame. Je crois qu'il a exprimé son point de vue. Il faut une prise de conscience, je suis d'accord avec lui. Nous devons avoir une forte prise de conscience de notre propre situation. Et je pense que lorsque Nelson Mandela a pris conscience de la gravité de la situation entre noir et blanc dans son pays, eh bien, la première réaction qu'il a eue, c'était quoi? Le pardon. Il a dit non. Il faut pardonner. Si on doit penser à tout ce que les Blancs ont causé aux Noirs, à tout ce que les Noirs ont aussi par revanche causé aux Blancs, l'Afrique du Sud ne peut pas être cette nation arc-en-ciel. Et donc, il fallait le pardon. Et c'est pourquoi je pense, madame, dans cette prise de conscience de l'Afrique, des Africains, il y a deux niveaux. Il y a le niveau de l'ensemble, c'est-à-dire le niveau du peuple, de la nation, des États, mais il y a également le niveau individuel, le niveau personnel qui importe beaucoup. Je prends des pays qui ont été trouvés au XXe siècle sans un développement, disons, technologique comme celui de l'Occident. Prenons l'exemple de l'Inde, prenons l'exemple de la Malaisie. Ces pays-là, qui sont venus tout à fait, même la Chine, derrière ces grandes, le développement des grandes puissances, ont pu rattraper et se sont rangés aujourd'hui à un certain niveau, qui n'est pas celui de l'Occident, mais quand même où ils peuvent gagner de l'argent dans un système qui n'était pas le leur à l'origine. Alors pour arriver à ça, il faut une prise de conscience et il faut des personnalités qui portent la foi du peuple vers un avenir autre que leur situation de dominer, leur situation de pauvreté. Et donc il n'est pas impossible justement que l'Afrique s'en sorte, je suis d'accord avec Madame Akombo là-dessus, je suis d'accord qu'il faut pour s'en sortir qu'il y ait une action à deux niveaux, au niveau du peuple, au niveau de la communauté, mais également au niveau des personnalités qui doivent porter le flambeau, qui doivent réveiller le peuple, des prophètes on dirait même, qui ne peuvent pas transiger sur certaines valeurs, et qui doivent avoir la capacité de casser les mots, donc de comme une noix, qu'on cesse de dire état de droit, démocratie, ceci. Il faut qu'on dise ce qu'on veut exactement. Et le peuple brésilien nous a montré cela. Il y a une cinquantaine d'années, le Brésil devait réviser sa constitution. Et on a dit, on ne va pas le faire à l'Assemblée nationale, ni dans la rue. Chaque cité va organiser des séances de travail où les citoyens apportent leur contribution à la centrale qui examine les modifications de la Constitution. En ce moment-là, on a démystifié beaucoup de mots. On a dit, nous n'allons pas rester dans des mots qui cachent des choses qu'on ne voit pas ou qu'on ne connaît pas. Il faut dire ce qu'on veut exactement. Et je pense que, malgré la pandémie du coronavirus qui a appauvri les nations, parce qu'il faut voir comment les nations riches ont sorti de leurs réserves des moyens pour aller contre la pandémie. Eh bien, cet appauvrissement-là des riches va avoir des conséquences sur les pauvres, parce que les pauvres vivaient également de l'économie des riches. Mais les pauvres, et c'est ça la joie de croire, les pauvres ont aussi des capacités de créer. Dieu ne les a pas dépourvus. Ils ont la capacité de réfléchir, de trouver des solutions face à leur situation, telle qu'on appelle, ils ont des capacités de résilience, c'est-à-dire de subvenir à des difficultés, même si on croit qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Et c'est vers cet appel que je voudrais rejoindre Mandela, c'est-à-dire avoir une conscience collective,
merci,
une prise de conscience au niveau collectif, mais également un engagement individuel, une prise de conscience de chacun pour participer à cette action.
Merci, maître Jean Bouyou. Eh bien, Georges Ndoumba, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
Christian Baka, depuis Kinshasa. Certains se demandent de quelles réactions qu'il faut appliquer pour y arriver à ce changement. Insensés sont ceux qui poussent à l'affrontement. Réfléchissons plutôt sur la capacité de minimiser les dangers qui nous guettent. Je donne l'exemple de mon pays. Le Congo est le seul et l'unique pays au monde attaqué par 7 pays voisins. Mais ses filles et fils, au lieu d'œuvrer pour l'unité, afin de combattre leurs ennemis, ils se déchirent et se battent eux-mêmes. Vraiment, c'est déplorable. L'ennemi numéro 1 de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même. L'extérieur ne vient que se greffer à cette torture que subit physiquement en permanence l'Afrique. Le changement arrivera lorsque l'Africain se décidera d'arrêter de souffrir son propre frère.
C'est Christo qui nous appelait là de Kinshasa. Avec Georges Ndumba, je vais ajouter une autre réaction qui nous vient de Mbandaka. Il s'agit de Junior Ifufa Bompaka qui dit ceci là. RDC bat le triste record dans l'indice de corruption au monde et les inégalités sociales existantes sont encore exacerbées par la décentralisation où partout la haine tribale devient de plus en plus à craindre. Les disparités sont au point qu'un fonctionnaire de l'État ne peut convient être politicien. Dans ce pays, je suggère que dans l'allure où vont les choses, la lutte contre les anti-valeurs devienne une affaire nationale et que l'on commence avec cela dans les écoles. Je suis enseignant et je vous assure qu'en assurant le cours des civismes, la mort dans l'âme, j'ai du mal à croire que ce pays sera développé dès lors que les mentalités resteront telles quelles. Ce cours devrait avoir une grande pondération et plus de 2 heures par semaine. Tous les Congolais ont pour la plupart entendu pour la première fois le mot corruption à l'école et il faut que ce soit à l'école que cette lutte commence. Abbé Georges Ndumba.
Merci, je remercie les deux intervenants. Je vais d'abord commencer par Christian. Oui, Christian, moi aussi je crois que ce n'est pas en entrant dans une philosophie d'affrontement, de collision entre les différentes couches qui peuplent notre nation que nous pourrons faire face à un ennemi comme la COVID-19. L'union fait la force. C'est pour cela que nous devons commencer d'abord, comme Nelson Mandela, à entrer dans une philosophie de l'Ubuntu, une philosophie de réconciliation, une philosophie de pardon accordé et pardon reçu. Pardon accordé, ce n'est pas un pardon accordé de manière naïve, ni pardon reçu, pas de manière fallacieuse ou insidieuse, non. Quand on se pardonne, quand on se réconcilie, on soude, et c'est ça le socle du vivre ensemble dans la tradition, partout la tradition africaine, nous pourrons alors ensemble faire face à des attaques qui nous viennent de l'extérieur. Mais bien sûr, les responsabilités ne sont pas également les mêmes. Il y a un problème d'abord de leadership, comme on a dit tout à l'heure, le leadership qui doit incarné dans le comportement, non seulement dans le beau discours, les exigences de justice, les exigences de droit, les exigences d'amour et de respect mutuel, les exigences de reconnaissance mutuelle, pour que, à travers ce leadership, cette vision, cet élos, nous pourrions tous ensemble, en nation, en État, marcher vers les vraies valeurs. Maintenant, pour le deuxième intervenant de Mbandaka, je suis d'accord que la composante éducation, la composante culturelle, la composante éthique et morale doit être prise au sérieux et mise à contribution dans l'organisation, la structuration de notre manière de vivre ensemble dans notre pays. Tant que on n'aura pas mis l'accent sur l'éducation, dans le sens plein du terme, tant qu'on n'aura pas des hommes et des femmes dans leur comportement, dans leur agir culturel, économique, politique, respectent les valeurs, tant qu'on ne va pas fonctionner dans la vision axiologique d'abord, quand on mettra seulement l'accent sur l'économique, le financier, l'efficacité extérieure, je crois que on pourra jamais faire face à des problèmes aussi importants que ceux issus de la COVID. Donc, je suis d'accord que nous devons révisiter notre manière de nous organiser,
merci,
donner l'importance à l'éducation, à l'éthique, aux valeurs. Ce sera qui pourra nous aider à la suite de Nelson Mandela,
merci,
à reconstruire
notre Ndumba. Angèle Makombo, nous tendons vers la fin de notre émission. Vous allez réagir brièvement à cette dernière question que je vais poser à tout le monde. Que faire pour que les peuples d'Afrique vivent dans la paix, s'entraident et aident à développer ce continent africain?
Je voudrais tout de suite dire, paraphraser un Obama qui a eu à dire que chacun de nous, on doit être le changement qu'on aimerait voir. Et si au Congo, chacun de nous essaie dans son domaine d'activité d'être l'exemple, le changement, les choses bougeront. Et j'ajouterais, j'aime beaucoup ce mot fort. On a parlé de Mandela, une grande figure africaine. Je termine avec une autre grande figure africaine, Sankara. Et ça, c'est un appel à nos dirigeants. S'il faut choisir entre le champagne pour quelques-uns et l'eau potable pour la majorité, choisissons l'eau potable. Et cette eau, d'ailleurs, servira aux gens parce que, en cette période de pandémie, vous savez qu'il y a des zones entières, et à Kinshasa et ailleurs, où les gens n'ont pas d'eau pour se laver les mains, alors qu'il faut se laver les mains plusieurs fois dans la journée.
Merci, Angèle Makombo. Je rappelle que vous êtes présidente du parti politique Ligue de démocrates congolais, l'IDEC en sigle. Maître Jean Bouillou, professeur de droit commercial au HADA, l'Université de Kinshasa, député national, élu de Kabalo dans le Tanganyika et cadre du parti politique PPRD. Qu'est-ce que vous proposez comme solution pour qu'il y ait solidarité au niveau de l'Afrique afin d'aider ce continent à aller de l'avant, à se développer?
Merci, madame. Je propose d'agir. Mais agir est précédé de la réflexion. Et pour mieux réfléchir, il faut être formé. Là, je félicite l'abbé Georges qui nous a rappelé ce thème central de l'éducation. Nous devons, dès nous les éducateurs, dès l'école primaire, secondaire, l'université, former réellement des jeunes capables de bien réfléchir et nos actions seront alors des actions coordonnées, des actions d'ensemble. Ensuite, je souhaiterais qu'on retienne la hiérarchie des valeurs. Lorsqu'il y a un oppresseur et un opprimé, comme l'a dit Martin Luther King, il faut d'abord identifier qui est oppresseur, qui est opprimé, avant d'agir. Et enfin, les jeunes et nous tous, nous devons avoir la patience d'écouter. De nos jours, il y a trop de paroles dans tous les sens, trop d'écrits avec l'Internet, et les gens n'ont pas la patience d'écouter. Écouter les valeurs, écouter... la réflexion, lire, approfondir des sujets avant de les aborder. Voilà ce que je souhaite à notre jeune Afrique.
Merci, Maître Jean Bouillou, Abbé Georges Ndoumba, professeur des universités, attaché principalement à l'Université catholique du Congo. Vous enseignez la philosophie du langage, herméneutique et la philosophie politique. Comment pérenniser le combat de Nelson Mandela contre les inégalités?
Bon, je dirais que il faut d'abord prendre conscience que la responsabilité dans la situation dans laquelle nous nous trouvons est tout à fait collégiale. Il ne faut pas que quelques-uns ou une catégorie puissent se soustraire de cette responsabilité-là. Nous prenons conscience que chacun de nous est quelque peu responsable et peut faire quelque chose pour apporter sa contribution dans la recherche de solutions à cette situation-là. De deux, je dirais qu'à la suite de Nelson Mandela, pour résoudre nos problèmes, nous devons chercher toujours à conjoindre la tradition et la modernité. Il ne faut pas courir les yeux bandés sur des exemples et des autres qui ont une autre histoire, qui ont un autre contexte de vie. Nous devons, tout en entrant dans la modernité, dans la mondialisation, ne pas perdre de vue qu'il y a encore des ressources à exploiter dans nos propres traditions, dans notre propre sagesse, dans nos propres coutumes, etc. Et nous pourrions ainsi entrer avec quelque chose dans les concerts des nations.
Merci.
Et enfin, que ce soit la jeunesse, il faut le goût de l'effort. Le goût du travail bien fait, pas la facilité, pas des raccourcis. On ne peut pas se développer sans travail, sans sérieux dans tout ce qu'on fait. C'est à la sueur de nos fronts, dans tous les domaines de la vie, que nous pourrions nous développer et avec nous développer notre pays, développer notre continent. Merci.
Merci Abbé Georges Ndoumba. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe Guimaté de la Madimba sous la supervision d'Axel Goncho. La mise en onde était assurée par Polydor Basunga. Présentation et coordination, Kéline Kouté. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet www.radioocapi.net. On se retrouve demain, même heure, même fréquence, pour un nouveau numéro de votre magazine. Prenez soin de vous et bonne suite de programmes sur la fréquence de la paix.